Le journal Marc Potvin. Bonjour Marc.
Bonjour Caroline. Bonjour à toutes et à tous. La nation tout entière doit se ranger aux côtés des enseignants pour les défendre. Appel d'Emmanuel Macron hier soir devant un collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, là où travaillait le professeur d'histoire-géographie qui a été décapité quelques heures plus tôt.
Nous entendrons le président dans un instant, puis nous ferons le point sur l'enquête avec Florence Turm. Si l'assaillant a été abattu par les policiers, son identification formelle est encore en cours. Quatre personnes de son entourage familial sont quant à elles en garde à vue.
Dans ce journal, également des communes touristiques qui prennent des arrêtés pour renforcer les mesures contre l'épidémie de coronavirus au moment où le couvre-feu et les vacances de la Toussaint débutent.
Un anniversaire au Liban, un an de la révolte populaire qui a secoué le pays. Des milliers de Libanais étaient descendus dans la rue pour réclamer le départ de toute la classe politique héritée de la guerre civile. Alors que la crise s'aggrave, les médecins prennent le chemin de l'exil.
Et puis direction Lyon, en fin de journal. Le prix Lumière a été remis aux cinéastes Jean-Pierre et Luc Dardenne hier soir. Prix qui récompense chaque année une personnalité majeure du 7e art. Dans la deuxième partie des Matins du samedi, Caroline.
Il intervient régulièrement sur les questions de religion, de laïcité, de liberté, d'intégrisme également. Il est l'invité des journées de l'histoire de l'Institut du monde arabe à Paris qui auront lieu demain et dont France Culture est partenaire. Il entre tout juste dans ce studio. Nous recevons à 8h15 Kamel Daoud, écrivain, chroniqueur et intellectuel.
À sa droite, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. À sa gauche, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier soir devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine où travaillait le professeur d'histoire-géographie décapité quelques heures plus tôt. La semaine dernière, il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Le président a dénoncé un attentat terroriste islamiste caractérisé. Il a aussi délivré un message à l'attention des enseignants.
Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Et il n'y a pas de hasard si ce soir c'est un enseignant que ce terroriste a abattu, parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs, les Lumières, la possibilité de faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelle que soit leur religion, d'en faire des citoyens libres. Cette bataille, c'est la nôtre et elle est existentielle.
Ils ne passeront pas, l'obscurantisme ne gagnera pas, a ajouté Emmanuel Macron à propos des islamistes radicaux. Les organisations syndicales de l'enseignement seront reçues dans une heure par le ministre de l'Éducation nationale. Dans le même temps, l'enquête ouverte par le parquet national antiterroriste va se poursuivre. Enquête pour les chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes criminels. Bonjour Florence Turm.
Bonjour.
Parmi les point qui reste à éclaircir, l'identité exacte de l'assaillant.
Oui, il s'agit de vérifier si la pièce d'identité retrouvée sur l'assaillant est bien la sienne. Si c'est le cas, il serait né à Moscou en 2002 et certaines sources proches de l'enquête parlent d'un jeune homme d'origine tchétchène, ce qui renvoie également au pseudonyme utilisé sur un compte Twitter, désormais fermé, un compte qui a publié hier soir, quelques minutes après le drame, la photo macabre de la décapitation assortie d'un message de revendication à l'adresse d'Emmanuel Macron, présenté comme le dirigeant des infidèles. Son auteur y déclare vouloir venger celui qui a osé rabaisser le prophète. Et vous le disiez, Marc, la semaine dernière, la victime, ce professeur d'histoire-géographie, avait montré à ses élèves une caricature de Mahomet dans le cadre d'une intervention sur la liberté d'expression. Ce cours avait choqué certains parents d'élèves. L'un d'eux avait même produit une vidéo de protestation largement diffusée sur les réseaux sociaux. Autant d'éléments qui ont motivé la saisine du parquet national antiterroriste. Dès hier soir, les enquêteurs ont procédé à des perquisitions, notamment dans les Yvelines, et quatre personnes, dont un mineur, membre de l'entourage de l'agresseur, ont été placées en garde à vue. Il s'agit maintenant d'exploiter les éléments saisis, de savoir si le jeune homme a agi seul ou s'il a pu bénéficier de complicité, si d'autres personnes ont pu l'inciter à commettre cet acte barbare. Il intervient 3 semaines, jour pour jour, après l'attentat au hachoir, perpétré par un jeune Pakistanais devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique qui avait republié les caricatures de Mahomet à l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 qui se déroule actuellement devant la cour d'assises de Paris.
Florence Sturm, merci. Vous parliez de Charlie Hebdo. Le journal fait part de son sentiment d'horreur et de révolte. Pour lui, l'intolérance vient de franchir un nouveau seuil. La décapitation de ce professeur d'histoire-géographie a également suscité l'émoi dans la classe politique. Les rares députés présents à l'Assemblée hier soir se sont ainsi levés pour saluer sa mémoire. Le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, parle d'un ignoble crime. Barbarie insoutenable, réagit de son côté la présidente du Rassemblement National. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, fait lui part de son effroi et de sa colère. Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, essayiste, ardent défenseur de la liberté d'expression. Quel est votre sentiment ce matin après la décapitation de cet enseignant?
Je l'ai appris hier soir. Bon, bien sûr, c'est le choc, mais ça nous rappelle... C'est le choc parce que c'est une décapitation. Ce n'est plus un clip de Daesh qu'on voit de loin. Ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe là, maintenant. C'est choquant parce que c'est un crime. C'est choquant parce que c'est un crime commis sur un enseignant. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépositaire d'une grande charge symbolique dans l'histoire de la France et ailleurs dans le monde. Mais en même temps, ça nous rappelle l'essentiel. Il faut combattre le terrorisme, mais il faut participer à démanteler l'islamisme sans complexe de culpabilité, sans lâcheté et avec beaucoup de courage.
Merci à vous, Kamel Daoud. On vous retrouve dans quelques minutes. Autour de la Belgique de mettre en place un couvre-feu dans l'ensemble du pays à partir de lundi. En France, la mesure est entrée en vigueur cette nuit à Paris, dans sa région et dans 8 autres métropoles. Et alors que les vacances de la Toussaint débutent, des maires de communes touristiques prennent des arrêtés pour renforcer localement les mesures contre l'épidémie de coronavirus. Rosalie Lafarge.
Un couvre-feu volontaire, ça c'est pour le Touquet Paris-Plage. La station balnéaire du Pas-de-Calais s'attend à recevoir beaucoup de monde et le maire LR Daniel Fasquel décide d'interdire tout déplacement de minuit à 6h du matin.
Le gouvernement, en prenant les décisions qu'il a prises, a déplacé le problème. Il instaure un couvre-feu dans les villes et invite les Français à partir en vacances. Donc, très franchement, si on est aujourd'hui dans cette situation... C'est le fait du gouvernement qui aurait dû prévoir que les Français risquaient de quitter les villes pour venir dans les territoires touristiques pour lesquels on a besoin aussi de soutien. Donc malheureusement, le gouvernement a fait les choses à moitié.
Sans aller jusque-là, son collègue Les Républicains de La Baule en Loire-Atlantique anticipe lui aussi un afflux de personnes et Franck Louvrier généralise donc le port du masque dans la ville.
Il faut accepter la migration nationale quand on est des villes balnéaires, on est des villes qui accueillent des touristes et qui doivent se préoccuper en permanence de protéger sa population. Donc il faut cette élasticité qui est pas simple. Donc on sera vraiment très drastique sur le port du masque parce que c'est un des moyens de pouvoir se protéger du virus.
La préfecture de Loire-Atlantique lui emboîte le pas et étend le port du masque à tout le département. La Vendée fait de même pour ses communes littorales. Toutes les régions touristiques se préparent en fait à accueillir un peu plus de monde que prévu. Effet vacances plus couvre-feu. Et si économiquement c'est évidemment intéressant, sanitairement parlant, les élus veulent à tout prix éviter un déplacement du virus dans des zones pour l'instant relativement épargné.
Rosalie Lafarge, les maires ont-ils le droit de prendre ces mesures? Eh bien, rien n'est moins sûr vu la jurisprudence post-confinement, explique le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier.
Sur le principe, le maire est titulaire de ce qu'on appelle le pouvoir de police administrative. Il peut prendre effectivement des mesures destinées à assurer le bon ordre et notamment les missions de santé publique. Sauf que là maintenant, on est dans une période qui s'appelle l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence sanitaire a comme objectif très spécifique d'instituer ce que l'on appelle une police spéciale qui est confiée au Premier ministre pour lutter contre l'épidémie actuelle. Et donc, le Premier ministre peut prendre des dispositions. Dans son prolongement, les préfets peuvent prendre également des mesures et il n'est pas possible que le maire prenne des mesures qui viennent concurrencer cette police spéciale qui appartient désormais au Premier ministre.
Le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier, également membre du mouvement de gauche Les Engagés. Quant au bilan dressé par Santé publique France ces dernières 24 heures, il fait état de 122 morts du coronavirus et plus de 25 000 nouveaux cas.
France Culture 8h10, suite du journal. Un an aujourd'hui depuis la révolte populaire qui a secoué le Liban.
Oui, des milliers de Libanais étaient descendus dans la rue pour réclamer le départ de toute la classe politique héritée de la guerre civile. Aujourd'hui, cette classe politique est toujours en place. Le pays n'a pas de gouvernement, la crise s'aggrave et la capitale, Beyrouth, a été ravagée par l'explosion du 4 août dans son port. Pour certains Libanais, la seule porte de sortie de ce Liban qui s'effondre, c'est l'exil, en particulier dans le secteur médical. Aurélien Colli.
Les infirmières, ça avait déjà débuté. Pour les médecins, on a vu le départ après l'explosion du port.
Le constat est amer pour le docteur Georges Dabar, directeur de l'Hôtel Dieu, l'un des établissements les plus réputés du Liban. Un à un, ses confrères quittent le pays, près de 10% déjà en quelques semaines, alors que le Liban était considéré comme l'hôpital du Moyen-Orient pour l'excellence de son secteur médical.
Le Liban est un des pays qui avait le plus grand nombre de médecins par habitant. Donc sur ces 4 500, quand on voit qu'il y a déjà 300 départs en un mois et demi, ça nous effraie. Et ça, c'est un symptôme de combien le pays est malade.
Une crise économique sans précédent, puis une révolution qui n'est pas venue à bout d'une classe politique qui a mis le pays en faillite par la corruption et le clientélisme. Ensuite, la crise du Covid et finalement l'explosion du 4 août dans le port de Beyrouth. En 12 mois, le Liban a changé de visage et cela fait fuir aussi les jeunes médecins en formation. La docteure Eliane Ayoub gère les internes de l'Hôtel Dieu.
Cette année, c'est la première année où on a 30 démissions. Ils ont voulu partir ailleurs parce qu'ils étaient désespérés, justement. Et c'est malheureux parce qu'ils ne veulent pas rester ici. Ils partent vers la France, les États-Unis. Ils ne reviennent plus, ces gens-là. Même nous, on est désespérés, si vous voulez. Mais d'un autre côté, on se dit, si tout le monde part, le Liban tombera.
Un reportage à Beyrouth de notre correspondant Aurélien Colli. Le Festival Lumière, festival du film classique, s'achève ce week-end à Lyon. Depuis qu'il a commencé, les spectateurs ont pu voir des films sélectionnés pour Cannes, mais privés de croisettes à cause du coronavirus. Également des versions restaurées de films classiques. Le festival a dû s'adapter au gré des consignes sanitaires. À présent, il est sommé de s'adapter au couvre-feu qui démarre à 21h. Plusieurs séances prévues en soirée sont donc annulées. Et hier, Mathilde Imberti, le festival a quand même pu remettre le 12e prix Lumière à deux cinéastes, les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne.
À Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Le prix Lumière est donc remis cette année aux frères Dardenne, Jean-Pierre Dardenne comblé.
C'est un immense honneur. C'est ici qu'on a inventé le cinéma. Ces deux frères qui l'ont inventé. Et notre cinéma est du côté du cinéma des frères Lumière. Ces gens qui essayent de saisir le réel.
Une réalité masquée cette année, bien sûr, et le cinéaste belge s'en amuse.
Parce que si on devait faire un film, mon frère et moi, ce masque serait un truc constitutif de la dramaturgie de notre film. Je trouve que c'est quelque chose, c'est un accessoire très important de notre époque. Et dans les films, on devrait s'en servir pour raconter des choses.
Les cinéastes belges ont répondu présent comme quasiment tous les artistes. Deux seulement ont annulé leur venue. 95% de la programmation a été assurée dans des salles enthousiastes. Le directeur du Festival Lumière, Thierry Frémaux.
Rien ne vaut la salle de cinéma et les spectateurs l'ont prouvé encore avec une discipline formidable. Et c'est pas tant à nous, puisqu'en effet le festival s'est merveilleusement déroulé, qu'il faut penser, c'est aux salles de spectacle, aux salles de cinéma et à toutes les contraintes que ce couvre-feu implique. C'est 40% des entrées en moins, la suppression de la séance de 20h et de 22h.
Le couvre-feu oblige les organisateurs à annuler plusieurs séances ce soir, mais c'est la dernière soirée du festival. C'est le sentiment d'être passé entre les gouttes pour Nathalie, spectatrice lyonnaise.
Oui, j'avais une séance qui malheureusement est annulée, mais sinon toutes les séances que j'avais prises ont pu avoir lieu. C'est entre les annulations, le couvre-feu, puis la menace de on ne savait pas si le festival aurait vraiment lieu, donc je m'estime heureuse.
Le plein de cinéma avant d'en être privé, du moins en soirée, à Lyon aussi.
Un reportage à Lyon signé Mathilde Imberti. Le temps beau mais couvert aujourd'hui, humide dans le nord. Il fait assez frais ce matin. Température maximale dans la journée 12 à 15 degrés sur la moitié nord du pays, 15 à 19 sur le sud. En Corse avec des pointes à 21 sur la Provence.